Donc, quelques mots de présentation de Mélanie Lamar, qui a soutenu sa thèse très récemment, en avril, sous le titre « Représentation de l'utopie dans la fiction romanesque contemporaine, Antoine Velodine, Olivier Rollin », et qui va publier en co-direction avec Émilie Brière un numéro de la Revue des sciences humaines, intitulé « Le roman parle du monde, lecture sociocritique et sociologique du roman contemporain ». Il sera peut-être aussi question de Velodine, j'imagine. Voilà. Non. Non, pas de question de Velodine. Oh, alors, ça n'a même pas dû le citer. Voilà, nous vous écoutons.
Alors, merci. Je vais exposer dans cette communication une partie des réflexions et des conclusions auxquelles je suis parvenue dans ma thèse de doctorat, que j'ai soutenu en avril dernier et qui portait sur les représentations de l'utopie dans les romans d'Antoine Velodine et d'Olivier Rollin et plus largement dans la fiction romanesque contemporaine. Alors, comme l'indique le titre de mon propos, Antoine Velodine et la fiction idéologique, il s'agira pour moi d'examiner ce que la fiction romanesque volodinienne fait à la fiction idéologique, en prenant le parti de considérer Antoine Velodine comme un formidable relecteur des idéologies marxistes du XXe siècle. Alors, avant d'entrer au cœur de mon sujet, je préciserai son cadre conceptuel. Je définis l'idéologie comme un système de représentation et de valeurs orientant l'action, reprenant en cela la définition courante à partir de laquelle travaillent les historiens. Mais je la définis aussi en littéraire comme la manifestation discursive, lexicale, sémantique et syntaxique d'intérêts sociaux particuliers. Alors, ça signifie que je l'aborde comme un fait de langage et de discours dans la lignée des travaux de Pierre Zima sur l'idéologie dans le roman existentialiste. Et c'est ce qui me permet de la faire dialoguer avec les textes littéraires. Les idéologies marxistes du XXe siècle, envisagées sous l'angle de leur canevas commun, constituent le corpus de textes ou de discours avec lequel je fais dialoguer les œuvres avant même de les faire dialoguer avec un héritage ou un compagnonnage littéraire. Je montrerai comment ces idéologies peuvent s'analyser de façon structurale comme des narrations à composantes fictionnelles opposant un « nous » à un « alter », reposant sur un ensemble de valeurs et de schèmes narratifs récurrents, mobilisant également un ensemble de représentations et de figures de style qui les rendent justiciables d'une analyse littéraire. Alors, je pense que nos amis québécois dans la salle auront reconnu que le substrat théorique, il s'agit de la sociocritique, c'est-à-dire d'une position heuristique née en France dans les années 70 avec Claude Duchet, qui partait du texte littéraire pour remonter vers le social, donc qui articulait le texte et le social de façon inductive et pas du tout de façon déterministe. Alors aujourd'hui, la mouvance sociocritique, pour ceux qui s'y intéresseraient, est bien représentée au Québec, autour notamment de Pierre Popovic et du Centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes, le CRIST. Alors, la sociocritique, en dépit donc du nom là, de ce centre de recherche, d'une perspective tout à fait modeste, qui fait le pari d'une herméneutique sociale des textes littéraires, c'est-à-dire d'une analyse du dialogue que les textes entretiennent avec les représentations mentales et langagières de leur époque. Alors dans ce cadre, c'est un regard, c'est un cadre dans lequel elle ne préconise pas d'outils analytiques spécifiques et chacun est en droit de travailler avec le matériau analytique qu'il souhaite. Et pour ma part, j'avoue une prédilection pour la narratologie, particulièrement, on le verra dans cette communication, pour les travaux de Philippe Hamon dans « Texte et idéologie ». Bon, je m'intéresse aussi aux travaux d'Henri Mitran, à Suzanne Souleymane, j'y ferai référence, ou même à Ruth Amossi. Donc des gens qui analysaient les structures du texte, personnages, temps, espace ou discours, mais dans leur rapport avec la représentation de l'histoire ou de la société. Donc une narratologie, mais ouverte sur le contexte. Je ne crois pas, pour ma part, que Volodine échappe aux outils de la narratologie, ni qu'il faille absolument créer de nouveaux termes techniques pour décrire la façon dont fonctionnent ses romans. Alors, c'est en analysant prioritairement le fonctionnement du personnel romanesque volodinien, ainsi que les discours que les personnages tiennent sur le monde, que je tenterai aujourd'hui de montrer comment les textes entrent en interaction dynamique avec l'imaginaire social de leur temps, dont participent les idéologies révolutionnaires marxistes. Alors, à l'horizon de ma démarche, le désir de comprendre l'originalité de l'œuvre sur le fond de l'époque à laquelle elle appartient. À mes yeux, celle-ci n'est pas, comme elle le dit elle-même, et comme on le reprend souvent, absolument étrangère au paysage littéraire ou imaginaire contemporain. Je montrerai comment elle critique, tout autant qu'elle exprime, le moment qui est le sien. Alors, bien qu'il refuse la grande tradition du roman, du réalisme français, les romans d'Antoine Volodine possèdent toutes les caractéristiques du roman à thèse, tel que les a définis Suzanne Suleiman. Un intertexte doctrinal y est représenté, identifié sous le nom d'égalitarisme, lequel renvoie à un panaché d'idéologies historiques précises, anarchisme, socialisme, communisme, dont il opère la synthèse. La présentation de l'idéologie égalitariste se fait sur le mode de la redondance actantielle, tous les personnages la défendent. Le post-exotisme, terme par lequel l'auteur désigne son propre univers fictionnel, se compose ainsi, je cite, « d'hommes et de femmes qui ne renient rien de l'idéologie anarcho-communiste, libertaire, violemment anticapitaliste et anticolonialiste qui les a menés en prison ». Tous les personnages se définissent par des traits communs, qui suscite la sympathie du lecteur. Ils sont saisis toujours dans des situations d'extrême faiblesse ou d'oppression. Les narrateurs, qui possèdent la même identité militante et défaite que les personnages, inscrivent leur discours dans une logique de solidarité. Ils redoublent le discours idéologique des personnages, voire même l'approuvent avec ostentation. Je cite... Le post-exotisme en dit leçon, Hélène Daux ne donnait pas l'impression d'avoir jamais été une grande criminelle, alors qu'elle avait criblé de balles une dizaine de hauts responsables du malheur, et que l'idée de s'en repentir ne l'avait pas effleurée une seconde depuis lors. Personnellement, je ne vois pas, moi non plus, pourquoi elle aurait dû éprouver de remords, et vous. Enfin, donc, si nombre de personnages sont des figures auctoriales, comme cela a bien été montré, l'auteur lui-même tend à ne se présenter que comme le simple porte-parole de ses personnages, soutenant l'hypothèse d'une coïncidence idéologique avec la pensée qu'il leur prête. Cette posture traduirait, en la renversant, la façon dont il ferait de ses personnages des porte-parole de sa pensée. Alors, les romans d'Antoine Volodine pourraient donc se lire comme les vecteurs d'un didactisme idéologique marxiste. C'est sans compter toutefois sur le travail de sape accompli par l'auteur, lequel ne cesse de subvertir les termes du débat opposant égalitarisme et capitalisme. Comme le souligne Frank Wagner dans l'article qu'il consacre à la poétique volodinienne des valeurs, il est surprenant que dans une époque où celui-ci fait l'objet d'un reflux massif, le marxisme ne soit défendu par aucune argumentation insistante et sophistiquée, destiné à remporter la conviction du narrateur dans le cadre de l'œuvre. En effet, aucun débat ne se voit orchestré entre tenants de l'égalitarisme et tenants du capitalisme. Les premiers s'apparentent à de purs supports doxiques dont les conditions et les qualifications sont interchangeables. Les seconds n'ont jamais la parole ou se trouvent grossièrement caricaturés. L'égalitarisme en devient fortement suspect. Comment se convaincre de la justesse de ses dires s'il est imposé au lecteur par voie de présupposition, s'il refuse, en quelque sorte, de se confronter au discours capitaliste? Alors ça avait été bien montré par Frank Wagner dans son article publié dans l'ouvrage de Frédéric Detuy et de Pierre Ouellet. Mais j'irai encore plus loin. Il me semble qu'Antoine Volodine ne cesse de souligner le caractère simplificateur de l'égalitarisme. C'est sous l'angle d'un manichéisme excessif que ses tenants qualifient leurs ennemis, dont l'image reste pourtant vague. Les capitalistes sont les riches et leurs complices, les milliardaires, mais aussi, catégorie plus floue, les heureux du monde. Quant à leur credo idéologique, ils se voient associés de manière récurrente et polémique au champ lexical de la guerre et de la barbarie. Le capitalisme est seul responsable des conflits atroces. Le joug des banquiers est aussi celui des loups fauteurs de guerre. Parce que le capitalisme est aux yeux des personnages guerriers et criminels par essence, ces derniers multiplient les associations lexicales abusives. Milliardaires appellent pogromistes, capitalistes appellent mafieux. Le système des dénominations et des qualifications du capitalisme est donc marqué par l'hyperbole et par une redondance qui tourne à vide. Le sociopolitique est constamment dépassé par le moral, si bien que le capitalisme symbolise en définitive tous les maux de l'humanité et que les capitalistes se confondent avec les responsables du malheur. Mettant au jour la façon dont les idéologies marxistes cédaient à la tentation de l'hyperbole et du dualisme plutôt que de décrire adéquatement la réalité sociale, Antoine Volodine souligne aussi comment, en dépit de leur prétention à la rationalité, les idéologies marxistes relevaient du domaine du narratif et du fictionnel bien plus que du domaine scientifique. Alors je prendrai un court exemple tiré de Nuit blanche en Valkyrie. Vastissimes sont les territoires balkyres, mais divisés entre ethnies et classes sociales rivales. La main de fer d'Attile égalisera ces populations et elle fera s'épanouir sur les cendres une culture de modestie fraternelle et d'entraide. On voit que le marxisme met en scène un héros, le peuple, aidé d'un sauveur providentiel, ici Attile, une situation initiale, l'enfer dans lequel vivent les hommes, c'est-à-dire une humanité, une communauté divisée entre classes et ethnies rivales, une épreuve décisive, la révolution, désignée par les images de la main de fer et des cendres, une situation finale, l'avènement d'un paradis terrestre basé sur la fraternité, l'égalité, la solidarité. On voit bien comment le dualisme marxiste relève de structures fantasmatiques déjà présentes dans le conte ou dans le mythe et qu'on peut appliquer donc à l'idéologie telle que le roman la montre, une analyse morphologique structurale du type de celle que Prop a mise en place pour le conte. L'idéologie apparaît donc bien comme l'enchaînement fictionnel d'unités narratives, comme un grand récit à usage collectif, et non pas comme l'énoncé d'une vérité historique, devant nécessairement advenir. Ce grand récit dramatique, qui se disait laïque, possédait une origine et une facture religieuse. Son axiologie opposant le bien au mal, son idée d'un salut collectif passant par la réparation par les hommes de la faute qu'ils ont commise, à savoir l'état présent de la terre livré au malheur. Son idée d'une possible éradication du mal. Son caractère providentiel, a-t-il en héros inespéré. Son extrapolation d'une fin de l'histoire emprunte leur représentation au récit chrétien du rachat des âmes. Certes, l'auteur réactive la métaphore marxiste, laïque et solaire de l'avenir radieux, mais celle-ci permute avec des métaphores chrétiennes, celles de l'enfer et du paradis. Je cite « Le monde actuel est un enfer pour les humains aussi bien que pour les animaux. Les grands-mères de des anges mineurs veulent revigorer le paradis égalitariste perdu. Dans le port intérieur, le terme de partir permute régulièrement avec celui de paradis. » Par ailleurs, le recours fréquent au mot d'utopie, qui relève du vocabulaire politique des 19e et 20e siècles, est également très significatif à mes yeux. Mobilisé par les personnages, alors même que le marxisme, en dépit des efforts de réhabilitation conduits par Ernst Bloch, tenait le terme pour un synonyme d'illusion et de chimère, il témoigne bien de la distance qu'entretient l'auteur à l'égard des idéologies marxistes et de leur vision prétendument scientifique d'une société meilleure à construire. Alors cet exaltant récit, qui tentait de canaliser le ressentiment des pauvres contre les riches afin de le transformer en force politique, put échouer à sublimer les passions individuelles et justifier fallacieusement des désirs de vengeance, comme en témoigne Don Dog dans le roman éponyme. Je cite « Son discours n'avait aucun sens, aucune base idéologique, il n'était inspiré par aucune valeur morale, il ne servait qu'à justifier très maladroitement un désir de vengeance personnelle. » Plus généralement, Antoine Volodine, en dépit de la tendresse qu'il témoigne envers ses créatures, ne cesse de réfuter le mythe de la classe élue. Refusant d'affecter ses personnages d'une quelconque supériorité morale, il met en avant leurs ambiguïtés. Les personnages principaux du Nom des singes sont d'anciens révolutionnaires morts dans des circonstances tragiques et qui décident de s'associer pour fonder une nouvelle commune égalitariste, une commune utopique. L'auteur les identifie explicitement à ces Untermenschen qui recueillent toute sa sympathie. Pourtant, tous ont commis des actes sombres et ne peuvent se définir comme de pures victimes. Fabian Golpiès aurait assassiné le juge Pomponi qui le considérait pourtant comme un fils. Rui Gutiérrez aurait fait partie de ceux qui ont fusillé Fabian Golpiès. Quant à Gonsalves, il n'a pas eu un comportement exemplaire pendant la Révolution. Alors, le siècle des idéologies fut également celui des totalitarismes. Et les romans d'Antoine Volodine détissent avec virtuosité l'entrelac des dangers et des mensonges qui gisaient au cœur des représentations. Marcel Gauchet définit les idéologies totalitaires comme des formes de religion séculière qui, en réponse aux bouleversements sociaux, politiques, économiques et culturels de la fin du XIXe siècle, tentèrent de réinstaurer du religieux, de l'un, dans les sociétés européennes, entrées depuis le début du siècle dans un processus de ce qu'il appelle de sortie de la religion. Or, les idéologies, discours propres à mobiliser les masses au profit du collectif, se convertirent en propagande outrancière lorsqu'il s'agissait de masquer les échecs du pouvoir totalitaire, dévoilant du même coup la fracture qu'elles avaient toujours entretenue avec le réel social. Antoine Volodine le souligne avec ironie. Bien avant qu'il ne déclenche la révolution, les personnages de Nuit Blanche en Valkyrie désignent parmi eux leur dictateur et leur chef de la propagande. Dans Un navire de nulle part, l'idéologie d'État tente de s'imposer de façon hégémonique afin de faire coïncider, en dépit de tous les démentis, le rêve et la réalité. Dans Des anges mineurs, le discours héroïque du pouvoir sur la construction, l'édification du socialisme est contrasté par la description des destructions effectives. L'auteur rappelle comment, déformant le message des Lumières, le XXe siècle confondit l'exercice individuel de la raison universelle et l'universalisation forcée de la décision politique, niant l'individu au profit d'un tout dans lequel il devait s'incorporer. Voir tous les tableaux du totalitarisme, qu'ils soient soviétiques ou fascistes, que donnent à lire les romans d'Antoine Volodine à travers leur jeu de brouillage spatio-temporel. Le pouvoir n'est cependant jamais seul responsable du dévoiement de l'idéal révolutionnaire ou de la plongée des sociétés dans le totalitarisme ou le crime de masse. Dans Alto Solo, l'habileté des chefs du parti frondiste ne serait rien sans l'assentiment des masses. Et l'histoire de la révolution marxiste elle-même est présentée comme celle d'un véritable suicide collectif. Aucun personnage n'est exempt de compromission. Dans Don't Dog, Gabriella Bruna et Jesse Lowe sont des ibures victimes du génocide, mais elles sont aussi des tchéquistes qui organisent, depuis leur unité de la légalité révolutionnaire, qui organisent elles aussi la terreur orchestrée par le pouvoir. De façon très symbolique, le portrait de Dzerzhinsky, fondateur de la Tchéka, est accroché dans le bureau de Jesse Lowe à côté de celui d'Ogon Platonov, qui porte le même nom de famille que l'écrivain russe Andrei Platonov, qui fut persécuté par le pouvoir soviétique. L'auteur montre que le rêve du salut par la révolution contenait en lui-même sa défiguration. Le totalitarisme fut la conséquence de la conception mystico-politique d'une histoire totale qui, au prix du sacrifice de chacun à l'épopée révolutionnaire et de l'élimination de l'ennemi, devait nécessairement voir advenir un monde neuf, fraternel, égalitaire. C'est pourquoi les personnages volodiniens ne rejettent pas, ou pas seulement, la faute sur leur chef, même s'ils les incriminent parfois, mais reconnaissent leur propre part de responsabilité dans la catastrophe, c'est-à-dire dans l'élimination de toute pluralité démocratique et dans l'orchestration du crime à vaste échelle au nom de l'unité révolutionnaire. Ainsi, Fabian Golpiès, dans Le Nom des singes, « Je sais seulement, par une intuition confuse, que j'étais associé à cela. En tant que témoin ou en tant que complice, je me trouvais associé à cela. » Ou Maria Samarcande dans Vue sur l'ossuaire, J'ai composé de nombreux articles favorables à la colonie et favorables au régime que j'avais aidé à mettre en place avec des millions de mes codétenus. De fait, les révolutionnaires inflexibles, forcenés, non repentis des romans d'Antoine Volodine n'ignorent ni le doute ni la culpabilité, comme Bruegel dans « Nuit blanche en Valkyrie », qui sollicite de temps en temps l'approbation du chef de la propagande Roman Gold pour l'aider à dissiper son désarroi idéologique face à l'ampleur du désastre. Au portrait de révolutionnaires triomphants se substituent ainsi des portraits de révolutionnaires mélancoliques, accablés par la tristesse et l'incertitude. Portraits paradoxaux constitués de deux images en surimpression. Un révolutionnaire flamboyant cache un soldat dépenaillé et misérable. Par exemple, sur les affiches de la propagande, Kirgil le dictateur ne ressemble pas à un fier héros du peuple, mais tantôt à un tyran mélancolique, tantôt à un déporté de la Colima. Alors pour le tyran mélancolique, Kirgil avait déjà à cette époque l'apparence qu'on lui a connue par la suite sur les affiches de propagande signées Roman Gold. Cette physionomie triste de soldat aux yeux jaunes fendus vers le haut. Cet air d'homme épuisé, de tankiste sans grade, en train de saigner gravement, mais refusant de révéler à son entourage la vérité de sa blessure, préférant se renfermer dans le silence, dans la lassitude, ayant choisi de se taire et attendant quelque chose qui tarde à venir, peut-être la mort, ou sinon une réponse claire sur le sens du combat. Des chefs au peuple, l'héroïsme ne fait jamais dans les romans d'Antoine Volodine l'objet d'une représentation au premier degré. Toujours médiatisé par le souvenir des personnages, il transite par des représentations de nature esthétique, slogans, formules, images épiques. Le peuple, quand il est décrit dans ses agissements, fait plutôt l'objet d'une représentation négative qui prend à rebours l'héroïsme des contes et légendes de la Révolution et de son célèbre prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Xénophobie, servitudes et violences familiales, lois du clan et traditions obscurantistes, les masses cèdent la place à la populace furieuse et les scènes de lynchage supplantent les scènes de révolte collective. Surtout, en racontant au détour de nombreuses micro-fictions biographiques les lignes torturées des existences de ces personnages, Antoine Volodine fait descendre au cœur des vies individuelles l'abstraction du sens de l'histoire. Le siècle des masses s'incarne et vibre d'une émotion nouvelle. L'idéologie déchue se pare de centaines de visages qui contreviennent à son anonymat. À l'image d'un des personnages de Désanges mineurs, Borodine, l'auteur aime l'idée du sauvetage. Et de fait, il restaure, dans une écriture du ressassement, toutes les individualités, toutes les singularités que la fiction idéologique s'évertuait à nier afin de les fondre, dans la logique d'un grand tout. Désanges mineurs ou vues sur l'ossuaire offrent des exemples achevés de dispositifs gigognes qui recèlent une quantité de récits de vie, d'esquisses, de récits de vie. Or, de l'histoire de Cornelius Pittman à celle de George Swain en passant par celle de Marina Kubalgai, toutes ces histoires disent la brisure et la déchéance de vie singulière dont le cours ne correspond en rien à la geste épique à laquelle elles s'étaient promises ou qu'on leur avait promise. Ce n'est donc pas avec un regard d'idéologue que l'auteur affronte le monde, on l'aura compris. Plutôt avec celui d'un humaniste attentif à la singularité et à la précarité des destins individuels, et également avec celui d'un moraliste attentif aux principes intemporels qui font agir l'humanité. Les maximes gnomiques essaiment d'ailleurs dans toute l'œuvre. La nuit et la stupidité nous habitent. Rien n'existe sinon la terreur d'être. Il y a longtemps que nul ne sait dire pourquoi il faut que l'existence gravite autour d'un noyau fondamental aussi cruellement sale. Ces formules brèves, à valeur de vérité générale et à portée descriptive, sont bien éloignées des formules à la fois démonstratives et prescriptives des discours idéologiques. Elles cherchent moins à donner une leçon sur le monde qu'elles n'en interrogent le sens, les valeurs, en un geste de sidération face aux horreurs du XXe siècle. La mise en scène des idéologies marxistes est donc loin d'être naïve. Croyances à caractère manichéen, elles furent au fondement de régimes politiques totalitaires dont l'auteur fait un symbole de la soif d'autodestruction de l'humanité. Mais leur représentation, on le sait, n'est pas entièrement négative. La lucidité ne se sépare pas d'une profonde mélancolie, nourrie par une nostalgie partielle pour l'élan utopique et pour la transcendantalisation, si vous m'autorisez le terme, de l'égotisme que l'idéologie marxiste pouvait comporter. Les personnages du post-exotisme en 10 leçons, leçon 11, choisissent ainsi de ressasser indéfiniment leurs rêves de révolution déchue dans leur prison considérée comme un moindre enfer, plutôt que de s'ouvrir à un monde extérieur où l'égalitarisme est considéré comme un archaïsme idéologique. Et l'œuvre est traversée par des figures paradoxales de l'attachement à la révolution marxiste. Gloria, dans Le port intérieur, continue de manifester sa loyauté envers le parti, qui pourtant la traque, qui veut sa mort, mais qu'elle appelle affectueusement « grand-mère ». Maria Samarcande, dans Vue sur l'ossuaire, ne regrette rien de son engagement en faveur de l'Orbise, qui a pourtant couvert la planète de Caen. L'amour des camps est un motif oxymorique récurrent qui symbolise cette indépassable tendresse pour la révolution marxiste. Ainsi, les grand-mères immortelles de Des Anges mineurs souhaitent l'installation de miradors autour de leur maison de retraite, afin que l'enfermement dans la vieillesse ne marque pas une rupture trop grande avec l'univers de leur jeunesse. La nièce du dernier mafieux destine sa fille, Rim Shedman, à rétablir l'ordre, les camps et la fraternité sur Terre. Alors pourquoi cette tendresse ? Au-delà du courage et de la dignité des militants révolutionnaires marxistes du XXe siècle, courage et dignité que ne cesse de rappeler l'œuvre via ses multiples épures de récits biographiques, ou via sa forme même, qui, dans son jeu avec l'anonymat collectif, se propose comme un lieu de mémoire des mouvements de résistance et de dissidence à l'oppression du XXe siècle. Au-delà de ça, il me semble qu'Antoine Volodine offre une piste intéressante de réflexion qui nous ramène au langage même de l'idéologie, mais tel qu'il est transcrit et poétisé par le texte littéraire. Alors en effet, bien qu'on puisse sans mal les reconnaître, les discours idéologiques ne sont pas restitués dans leur vérité historique, mais retravaillés au moyen de figures de style qui font ressortir les promesses anthropologiques inconscientes qu'ils recelaient. Alors je vais prendre un exemple que j'affectionne particulièrement, tiré de « Vue sur l'ossuaire ». Le siècle a eu un hoquet de sang, mais à partir d'aujourd'hui, il sera lumineux jusqu'à sa fin. La révolution mondiale va se répandre sur tous les continents comme une traînée de poudre. En septembre ou en octobre, quand les armées recevront l'ordre de se disperser, nous mettrons à la raison nos mauvais chefs. La planète sera gérée par les travailleurs. Elle sera pour toujours calme et rouge. Tu me suis, Jogan ? Plus personne ne sera victime des riches, il n'y aura plus de riches. L'intelligence commandera, les savants feront repousser ton bras et ils construiront le bonheur pour tous. Le ciel frémira sous la caresse de millions de dirigeables. Alors dans ce passage, l'accumulation d'hyperboles en cascade, parmi lesquelles figure une hyperbole inconcevable, les savants feront repousser ton bras, encore que, vu les derniers progrès de la médecine, on se demande. Alors, bon, moi j'appelle encore cela un adunatone, une impossibilité, qui a un effet comique. Antoine Volodine n'est pas dupe de la fuite hors du réel de ses personnages et sape les douces illusions de l'utopie. Mais les procédés de métaphorisation qui nourrissent également le discours, il sera lumineux jusqu'à la fin, elle sera pour toujours calme et rouge, le ciel frémira sous la caresse de millions de dirigeables. Tous ces procédés témoignent de ce que ce discours ne relève pas tout entier d'un traitement ironique. L'auteur mobilise des sensations visuelles, lumineux, rouges, auditives ou tactiles, calme, frémira, caresse, qui prennent en charge un rêve sensible d'harmonie. Par le jeu des hyperboles spatio-temporelles, Il évoque un désir anthropologique de permanence, de stabilité, jusqu'à la fin, sur tous les continents, pour toujours. On voit que les idéologies marxistes fonctionnaient donc comme des récits qui, à la manière des légendes épiques, touchaient l'inconscient des individus. Et c'est dans cette dimension proprement fantasmatique que l'auteur retrouve leur part de grandeur, de beauté, de générosité. Comment rester insensible, en effet, au caractère prométhéen de narration qui annonçait à l'humanité qu'elle pouvait briser pour toujours le carcan de sa finitude ? Comment rester sourd à la double promesse de purification et d'apaisement qu'elle véhiculait ? Le discours marxiste, particulièrement riche en métaphores et en images saisissantes, que l'on songe à la table rase ou à la lutte finale, annonçait que le monde serait bientôt débarrassé de ses malheurs. Remotivant ces métaphores usées en les poétisant, l'auteur donne à sentir l'irrésistible appel qu'elle pouvait exercer sur les esprits. Par le travail qu'il effectue donc sur le langage, Antoine Volodine montre que c'est moins en homme raisonneur qu'en homme sensible que ces personnages se tournèrent vers l'idéologie comme vers un récit de libération et d'harmonie qui dépasserait le strict domaine du politique. Ce délire de la raison n'était finalement pas autre chose que la mise en forme d'un besoin anthropologique premier d'apaisement émotif et sensible, de stabilisation et de pérennisation de la précarité de l'existence. Donc j'en arrive à ma conclusion. L'œuvre d'Antoine Volodine ne cesse de rendre hommage, on l'a déjà dit, à celle d'Andrei Platonov. Le 306e ouvrage de la bibliothèque du post-exotisme en 10 leçons, leçon 11, s'intitule par exemple « La chasse au Platonov moqueur ». Alors, si on a lu Platonov, on s'aperçoit que l'œuvre de Volodine lui emprunte ces personnages de gueux, hein, qui rappellent la fragilité de l'existence humaine contre le mythe de l'homme nouveau. Elle lui emprunte également son humanisme du vivant, c'est-à-dire un humanisme qui n'est pas destiné uniquement à l'autre homme, à l'humanisme de l'autre homme, mais qui s'adresse à toute chose créée, humain, animaux, nature, contre cette fois-ci le mythe de l'homme maître et possesseur de la nature. Enfin, on s'aperçoit qu'elle lui emprunte également ses décors symboliques de la faillite du rêve révolutionnaire. De l'écrivain soviétique des années 30 à l'écrivain français des années 80, se dessineraient peut-être les pôles d'une filiation critique à l'encontre d'une utopie collective dont on ne parvient pas totalement à faire le deuil et se modulerait un jeu avec les codes du roman à thèse. L'interdiscursivité volodinienne, c'est-à-dire l'inscription au sein du roman de discours idéologiques vampirisés et transformés, comme j'ai tenté de le montrer, donc cette interdiscursivité, ainsi que sa conception des personnages, sont en effet les lieux d'une ambivalence qui exprime à la fois la critique et le regret du marxisme. Tous semblables dans leur absence d'origine nationale, les personnages constituent à leur manière un type qui les rend interchangeables. Partageant les mêmes croyances, parlant le même langage, ils réveillent en nous l'écho du roman à thèse et l'image de ces masses unies par une même volonté que mettaient en scène les idéologies marxistes. Pourtant, leur similitude n'est pas mise au service de la défense d'une thèse idéologico-politique. Elle illustre diversement, au prix d'une multitude d'histoires singulières, le grand tableau de la souffrance humaine. Isolés, solitaires, les personnages volodiniens racontent tous la grande déroute des masses et ramènent les abstractions de la rationalité idéologique au détail des trajectoires et des existences individuelles. De même, leur slogan, à la fois miné par l'ironie et poétisé par la métaphore, font exploser les codes du roman à thèse en même temps qu'ils les rappellent, dénoncent les erreurs de la croyance idéologique en même temps qu'ils entretiennent le souvenir de ces beautés, via notamment l'image de la cité idéale. Cette critique lucide de représentation ayant structuré toute la modernité, doublée d'une nostalgie partielle pour leur idéalisme et pour leur dépassement de l'individualisme, s'accompagne d'un désaveu radical des normes comportementales et socioculturelles de l'époque actuelle. Alors, récrimination, dénonciation, des spéculations néolibérales, du consumérisme identitaire, du capitalisme de séduction. On le sait, l'œuvre volodinienne entretient la polémique avec le contemporain et s'en singularise par un geste de rupture spectaculaire. Alors, ce n'est pas dire cependant que l'œuvre échapperait à son époque, mais à mes yeux, au contraire, qu'elle s'y inscrit très profondément. Alors, tout d'abord, on aura bien vu qu'elle fait écho à la grande désillusion qui touche l'imaginaire social depuis le milieu des années 70, et qu'à cet égard, elle accélère un travail de deuil symbolique à l'endroit du grand récit marxiste. Mais en écho à l'inquiétude portée sur la transmission qui anime également l'imaginaire social, Sylvie Servoise en a bien parlé hier, je renvoie aux travaux notamment de Pierre Nora et de François Hartog. Donc en écho à cette inquiétude portée sur la transmission, sur cette inquiétude portée sur ce qu'il reste du passé, l'œuvre accomplit une importante tâche de sauvegarde mémorielle. Fixation d'une mémoire militante de l'engagement et d'une mémoire de la guerre et de la déportation. Entre ironie et mélancolie, entre révolution impossible et révolution trahie, pour reprendre des images chères à l'auteur, l'œuvre évalue également un état présent des circonstances, en cultivant un soupçon à l'égard de toute valorisation téléologique de l'histoire. Et contrairement à ce que l'on répète, qui constitue à mes yeux un lieu commun, la valorisation théologique de l'histoire n'a absolument pas disparu de notre contemporain. Il y va donc d'un triple rôle qui, sans rien renier de sa singularité, inscrit l'œuvre volodinienne dans un mouvement qui traverse tout un pan de la littérature française contemporaine la plus exigeante, et j'ai pu montrer dans ma thèse comment ces conclusions valent aussi, mais différemment, pour une œuvre aussi manifestement dépareillée que celle d'Olivier Rollin.
Bon, c'était vraiment une communication en contrepoint avec celle de Philippe, et il y a là matière à continuer les discussions amorcées précédemment. Et puis il y a aussi toutes sortes de questions possibles, je ne sais pas, par exemple, l'affirmation de départ un petit peu déroutante que vous avez ensuite déconstruite, évidemment, le rapprochement de l'œuvre de Volodine avec le roman Athès, qui peut bien le recours à l'anthropologie, qui peut aussi poser problème, ou les difficultés que suscite l'usage du terme humanisme pour quelque chose qui n'est pas seulement de l'humain, mais qui est du vivant. Voilà. Donc il y a beaucoup de. Merci de votre. Communication, j'ouvre la voie des questions. Frédéric, veux-tu?
Je vais commencer par une réflexion qui justement, tu disais, Joël, que les deux communications permettaient d'avoir une discussion qui se poursuivait par rapport à tout ça. Il me semble quand même qu'il y a à un moment, la réponse qui m'a été faite à une question que je posais, c'était j'avoue que je suis social-démocrate dans la façon dont je vous réponds. Bon, d'accord. Il me semble qu'effectivement, il n'y a pas de neutralité dans l'arrière-plan théorique qu'on utilise pour aborder une œuvre. Et là, en l'occurrence, par exemple, j'ai été frappé par l'emploi du mot marxiste à propos de l'histoire du XXe siècle, étant donné que il m'a semblé qu'il y avait une utilisation de cet adjectif marxiste qui négligeait, par exemple, le fait qu'il pouvait y avoir eu un marxisme critique au XXe siècle qui était complètement déjà une façon de recueillir l'œuvre de Marx. D'une façon à dénoncer sa réalisation marxiste-léniniste en Union soviétique, et que finalement il y avait une sorte de mouvement de ta communication, Mélanie, qui me paraissait assez marqué par l'idée, l'association de marxisme, utopie, illusion, qui allait dans le sens d'un François Furet, le passé d'une illusion, d'un Martin Malia, qui aussi dit que l'échec de la révolution russe est l'échec de l'utopie en tant que telle, de la notion d'utopie, et il me semble que tu vas vers une dépolitisation de l'œuvre, vers la fin de ton propos, vers quelque chose de plus anthropologique. Tu me diras si je me trompe, hein, mais voilà. Et je vais m'arrêter là.
Alors, je ne vais pas vers une dépolitisation de l'œuvre, je cherche à montrer quelles sont les tensions qui se jouent à l'intérieur de l'œuvre, et dont, à mon avis, on ne peut pas faire l'économie, on ne peut pas réduire l'œuvre précisément à une option politique ou à une autre, selon moi, parce qu'elle fait échec à toute tentative de la réduire précisément à une option politique. Alors, il ne s'agit pas de dépolitiser, mais il s'agit de montrer quelles sont les tensions. Donc, ce qui m'intéresse de montrer, c'est comment, à travers donc, c'est les discours du roman, on s'aperçoit qu'il y a une critique implacable des idéologies marxistes. Moi, c'est ce que je lis dans ses œuvres, ce qui n'empêche pas une nostalgie en effet partielle pour des aspects, une nostalgie partielle. Alors, c'est ce que je lis dans les œuvres, et par ailleurs, je conteste, je ne réduis pas le marxisme à une illusion. Il n'y a pas ce raccourci marxisme, utopie égale illusion, c'est pas du tout ça. L'utopie, je la définis pareillement en littéraire. Qu'est-ce que l'utopie ? C'est une représentation, c'est un fait de discours, un fait de langage, qui pour moi se résume simplement à l'imagination de la cité idéale. Et donc quand je parle d'utopie, je parle à ce qui, dans le discours idéologique, exprimait cette idée, cette image de la cité idéale. Mais je n'en fais pas... moi, je ne prends pas position politique par rapport à l'œuvre. Et je ne taxe pas le marxisme d'illusion. Mais si on travaille à partir des œuvres, si on part du discours des personnages dans les œuvres, on n'a pas de référence au marxisme critique auquel tu faisais allusion. Moi, je me base vraiment sur ce que disent les personnages. Je ne parle pas d'un plan philosophique préalable. En travaillant à partir des œuvres, voilà quelles sont les conclusions auxquelles j'ai abouti. C'était ça mon mouvement, lire les œuvres et puis ensuite, par manière d'induction, de les rattacher au contexte.
Et encore faut-il vérifier que dans l'œuvre, il s'agit bien de marxisme tel que il s'agit de la référence à l'œuvre de Marx, ou est-ce qu'il s'agit d'idéologie marxiste telle qu'elles ont été mises en œuvre par des régimes politiques du XXe siècle qui ont échoué. Voilà.
Oui, d'accord, tout à fait. Non, je comprends bien la question, elle est légitime.
C'est ça,
oui, oui.
Ça me paraît très important de faire cette distinction.
On peut la faire à partir de ce que disent les personnages dans les œuvres. Et quand les œuvres parlent d'égalitarisme, c'est pour faire une synthèse d'idéologie historique précise. Donc si je parle d'idéologie, je ne parle pas de la philosophie de Marx, mais de sa vulgarisation au niveau de discours politique. C'est de ça que je parle, c'est ce que l'œuvre me semble faire. Et elle semble faire une synthèse de tous ces mouvements-là. Donc quand j'emploie le terme d'idéologie marxiste, c'est bien pour faire référence à des idéologies politiques, pas à l'œuvre de Marx elle-même. Et il me semble que l'œuvre appelle précisément en fait un dialogue avec ce vaste corpus textuel discursif que sont les idéologies politiques, donc marxistes ou marxisantes. J'ai fait le choix du mot marxisme, mais je conçois qu'ils peuvent gêner certaines personnes. C'est un outil théorique à partir duquel je travaille. Enfin, c'est un choix. Un postulat sans lequel je ne pourrais pas désigner cet objet que constitue donc ce corpus de discours. Bon, je pense que certains auront reconnu que je travaille un petit peu comme Marc Angenot, par exemple, qui désigne comme ça un très vaste ensemble de discours pour pouvoir les analyser. Au-delà des querelles théoriques que ces différentes idéologies ont pu entretenir entre elles. Voilà.
Oui, alors il y avait une question d'Antonin Viseur. Oui.
Moi, je pars un peu de la même remarque que vient de faire Frédéric pour peut-être la, non seulement le marxisme est pluriel, la notion d'idéologie me semble être pluriel aussi, ne serait-ce que parce que Marx l'a utilisé pour parler de l'idéologie dominante. Ça me paraît, moi je trouvais compliqué en tout cas de créer justement cette grande catégorie qui efface, qui me semble efface la pluralité des marxismes et la pluralité des approches de l'idéologie, parce que finalement, alors de quoi est la caricature? Parce qu'il y a bien une caricature d'un discours qui est présenté dans les œuvres de Volodine. Est-ce qu'on peut en induire à partir des quelques traits qui sont là que c'est la caricature de l'ensemble des discours marxistes comme idéologie? Voilà, ça me semble, il me semble qu'il y a un saut, c'est peut-être la caricature de certains types historiques marqués de pratique du discours marxisant qu'il y a pu avoir. Pas d'autres, comment on reconnaît,
est-ce que vous pouvez me dire à quel discours vous pensez que l'œuvre ne critiquerait pas pour que je comprenne mieux le...
Je pense par exemple que la théorie critique, le discours de Frankfurt, l'école de Frankfurt, c'est une pratique du marxisme qui n'est pas... Ou je pense que Debord, par exemple, ça peut peut-être... C'est une autre version de... Et par contre, alors la position... Volodine moraliste intemporelle, quelque chose que j'ai cru, c'est hors idéologie, comme ça, ben, je me pose la question de savoir si c'est pas précisément ça qui relève de l'idéologie, la possibilité qu'il y ait de l'intemporel, du hors histoire, de l'essence, quelque chose qui soit valable en dehors de l'histoire. Mais là, c'est de nouveau un débat sur la notion d'idéologie.
Oui, pense, d'accord.
Sur la conception de. Précisément d'un point de vue soit de la théorie critique, soit de marxisme, ou même de certaines couches du discours de Marx. Il y a plusieurs couches, il y a la couche du grand récit, mais il y a d'autres couches qui s'y réduisent pas, me semble-t-il. Hein. Et puis la dernière question que je vais vous poser, du lien entre le totalitarisme comme conséquence d'un certain concept d'histoire. Ça me paraît accorder beaucoup d'importance à comment on peut dire ça sans prendre le risque de finalement attribuer justement le totalitarisme à la pensée de l'histoire de Marx. Voilà, parce que il y a une couche dans le discours de Marx d'une certaine conception de l'histoire. Voilà, ça amène au totalitarisme. C'est quelque chose que moi en tout cas je ne partage pas, qu'une conception de l'histoire soit responsable, puisse être...
Ben oui, alors je vais répondre donc aux trois questions. Donc à propos de la théorie critique, l'école de Francfort, de Bohr, etc., très bien, ça existe certainement, mais je vois pas dans les œuvres quel personnage tiendrait un discours qui nous ramène à l'école de Francfort. Mais
c'est pas dans les œuvres, c'est dans la manière dont vous faites un concept global du marxisme.
Oui, mais parce que j'analyse les œuvres, je ne parle pas du marxisme en général, en dehors des œuvres, mon approche du marxisme, alors oui, très bien, mais j'en suis tout à fait consciente qu'il existe d'autres branches du marxisme, mais en fait, pour moi, j'en ai pas eu recours dans mon analyse, précisément parce que je ne veux pas commenter autre chose que ce que disent les personnages. Donc,
si on va par là, on peut faire référence au post-exotisme de Leçon de son monde, ou à la confrontation entre les personnages du post-exotisme, enfin les écrivains du post-exotisme, et Blotno et Nuki qui viennent les voir, et la façon dont ils sont désignés comme des mercenaires écrivains à la solde d'une revue à grand tirage, etc. On a, franchement, enfin, moi je fais clairement c'est la façon dont ils sont représentés dans ce discours-là et de Bordien en diable, vraiment complètement.
C'est ce dont j'ai parlé dans ma conclusion. Oui, bien sûr. Alors, c'est ça, il faut associer le mouvement de critique des idéologies marxistes telles que je les nomme, et en effet une critique radicale tout à fait des normes comportementales et socioculturelles actuelles, mais que je sache, la critique de la culture de masse n'est pas absolument le propre du marxisme. Enfin, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, je critique pas, mais oui, je suis consciente. Évidemment, il y a une critique de l'époque actuelle et du capitalisme néolibéral actuel, tout à fait. Ça, oui. Tout à fait. Mais je vais répondre quand même avant à la deuxième question, peut-être. La figure du moraliste n'est pas opposée à celle... elle n'est pas une figure idéale, pas du tout. Je fais référence, par exemple, aux moralistes de l'Ancien Régime, aux moralistes du XVIIe siècle, de gens qui critiquaient les comportements sociaux et la nature humaine en dehors, là, pour de toute pensée idéologique. Donc, c'était à ce modèle-là du moraliste que je faisais référence. Et puis, enfin, je n'ai pas du tout dit que le totalitarisme était la conséquence d'une conception de l'histoire. J'essayais de voir comment, à travers les discours, les représentations... était déjà contenu en germe un fantasme d'unité dont il était possible qu'il débouche sur le crime. Mais oui, je ne veux pas non plus faire de l'histoire la conséquence des discours et des représentations, mais j'estime que les représentations sont une partie du réel, hein, et qui nous informe qui transforme la réalité, qui nous informe sur ce réel tout autant que les conflits d'intérêts, les actions des acteurs du paysage historique. Donc, voilà.
Là, vous êtes très nombreux à vouloir intervenir, alors je vais essayer de respecter l'ordre de lever des doigts. Alors,
c'est deux questions d'explicitation, en fait. La première rebondit un petit peu sur les remarques qui ont été faites sur la question de l'idéologie. Vous avez parlé de discours idéologique. Je me demandais ce que serait pour vous un discours non idéologique. Est-ce que ça existe déjà? Et si ça existe, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un discours qui n'est pas un système de représentation, mais un système de représentation de valeurs? Ou est-ce que c'est un discours qui n'oriente pas l'action? Qu'est-ce que c'est? La deuxième demande porte sur l'incise que vous avez faite dans votre conclusion. Vous avez dit qu'il existait encore aujourd'hui des conceptions téléologiques de l'histoire. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précise? Qu'est-ce que vous entendez par là? À quoi pensez-vous? À quel auteur? À quelle doctrine?
Alors, pour la première question, donc oui, je m'intéresse uniquement aux idéologies politiques, donc évidemment qu'il peut y avoir une parole non idéologique, et je définis l'idéologie politique donc comme ce récit, hein, qui va opposer un nous, un camp bien défini, à un ennemi, à un alter, autour donc d'un ensemble de valeurs, un récit qui est basé aussi sur une certaine représentation de l'histoire collective. Chaque idéologie aura sa représentation du passé, orientée vers une certaine fin, hein, et donc là on peut isoler également dans chaque idéologie politique quels sont les buts sur lesquels elle veut déboucher, également en littéraire sur un ensemble de figures de style comme ça qu'on peut repérer dans les idéologies politiques. À travailler plus pour gagner plus, ça rime par exemple, hein, donc s'intéresser comme ça à ces figures de style qui animent le discours idéologique. Donc ça, c'était uniquement les grandes idéologies politiques du XXe siècle, c'est tout.
Est-ce que je peux recadrer alors ma question? Admettons qu'on parle de discours politique. Donc il y a des discours politiques idéologiques. Est-ce qu'il y a des discours politiques qui ne seraient pas? Là, vous avez déplacé la question en mettant tout de suite le politique. Est-ce que le politique est nécessairement idéologique? Au sens où il serait finalisé, inévitablement. Est-ce que l'idéologie, ça peut être autre chose, par exemple un système de représentation qui tout simplement informe les catégories à travers lesquelles le réel devient intelligible?
Non, mais ce serait une définition trop large de l'idéologie. Moi, je la restreins aux idéologies politiques, donc les partis vont tous se doter comme ça d'une structure idéologique voilà, qui peut être plus ou moins contraignante. C'était cette définition-là que j'en donnais. Et oui, à propos des conceptions téléologiques de l'histoire, si on aborde une fois de plus tout ce qui se dit autour de nous, tout ce qui nous entoure en littéraire, on peut trouver dans les discours actuels, dans ce qui se dit, dans ce qui s'énonce aujourd'hui, ce schéma argumentatif dont j'ai parlé, ce récit qui est donc polarisé vers une fin radieuse, hein, une espèce d'extrapolation radieuse de l'histoire. Alors, on peut penser, par exemple, au discours néolibéral qui envisage à la fin de l'histoire le triomphe de la démocratie et du marché, comme si ces deux choses-là étaient absolument indissociables et étaient le synonyme du bonheur de l'humanité. Donc je renvoie à ce qu'avait écrit Fukuyama, où on le trouve dans les discours de George Bush, par exemple, au début des années 2000, ce genre de conception téléologique de l'histoire de l'humanité. Bon, mais c'est vraiment Fukuyama qui l'énonce le plus magnifiquement, le plus naïvement possible, puisqu'il dit lui-même qu'il reprend les catégories de la philosophie hegélienne de l'histoire, hein, pour les mettre à la sauce moderne. Donc, voilà, le mouvement final de l'histoire, c'est l'extension à toute la planète des vertus magnifiques de la démocratie et du marché régulateur, pacificateur des peuples.
Vous n'avez pas le sentiment que ce discours a été quand même sérieusement éreinté ?
Mais je trouve qu'il existe toujours, moi. Je continue à l'entendre. Et il y a des auteurs, par exemple, dans le panorama contemporain, qui nous montrent bien que ce discours a une certaine prégnance. Par exemple, si on pense à Michel Houellebecq dans Les particules élémentaires, à la fin du livre, il y a précisément une uchronie, hein, bon, qui joue vraiment avec le roman de science-fiction et qui extrapole une espèce de dystopie comme ça dans le futur, résultat, hein, du mouvement de nos sociétés condamnées à la marchandisation accélérée et infinie des individus. Donc si lui choisit à la fin de son roman de représenter l'avenir sous forme d'une dystopie pour montrer quels seraient les revers, c'est bien parce qu'il perçoit dans ses discours politiques capitalistes, néolibéraux, c'est bien parce qu'il perçoit une tension utopique, à mon avis. Et puis les récits théologiques de l'histoire, moi j'en entends même dans ma pratique d'enseignante au quotidien, dans les formations IUFM, on peut opposer aucune résistance, mais vous n'êtes pas dans le sens de l'histoire, je l'ai entendu. Donc pour moi c'est un schéma narratif qui n'a pas disparu.
C'est l'heure, dans l'ordre. Thierry Saint-Arnoux.
Oui, alors, j'aurais bien envie d'apporter quelques petites nuances. D'abord, au niveau de... quand on cite un navire de nulle part, moi, il me semble quand même qu'il faut pas tout baser sur la synchronie, mais il y a un plan diachronique aussi. C'est-à-dire que un navire de nulle part fait partie des quatre textes qui ont été publiés avant 1989, avant l'effondrement du mur, et qui se situent dans un contexte tout à fait différent. Par exemple, Biographie comparée de Joël Murgrave fait référence à la Chemiatnaya Pravda, c'est-à-dire la Pravda qui est à l'échelle de la planète. Donc un journal qui correspond à ça. Donc ça ne correspond pas du tout au contexte de Songe de Mévido ou des Anges mineurs. Hein. Donc un navire de nulle part se situe bien au moment, à un moment politique bien précis. Alors on ne peut pas reprendre les slogans de l'époque pour... ça c'est un premier point. Ensuite il y a trois... Moi j'ai entendu essentiellement marxisme, dénonciation du marxisme, etc. Bon, et avec une analyse qui est tout à fait... très bien faite. Seulement, il n'y a pas que le marxisme, et qu'est-ce que ça veut dire, ça on l'a déjà dit. Il y a une critique de la social-démocratie allemande grisailleuse, brouillardeuse dans Lisbonne derrière marge. Il y a une critique du stalinisme qui correspond très bien à Nuit blanche en Valkyrie et à Des anges mineurs dans les années 20-30 au moment de la défiguration, ou même les liquidations, les purges dont on a entendu parler à coup de cloche hier. Et il y a une dénonciation du fascisme dans Alto Solo, et il y a une dénonciation du capitalisme qui est récurrente, y compris sous une forme très étrange dans Songe de Mévido, où c'est le parti marxiste qui est au pouvoir et qui en même temps pratique le capitalisme à fond. Je ne sais pas où ça se passe sur la planète actuellement, mais... Alors, il serait bien peut-être à un moment donné de nuancer plutôt que d'y aller. Il y aurait beaucoup de nuances à apporter à tout ça. Ensuite, deuxième chose, en termes de neutralité, quand on dit le mythe de la classe élue pour désigner une position du marxiste, c'est pas neutre, hein, c'est une définition qui est bien précise. Quand on dit Marcel Gaucher, on cite Marcel Gaucher des formes de religion séculaire, bon, c'est pas neutre, hein, c'est pas ça. Et puis ensuite, j'aurais envie de revenir sur l'épisode, dernier point, parce que sinon il y aurait pas mal de choses, sur le rêve du dirigeable, qui est un très très bon moment, à mon avis, dans Vue sur l'Osphère, le rêve du dirigeable. On est là à un moment qui est peut-être un apax dans l'œuvre, c'est-à-dire que à cet endroit-là, le rêve, il est en train de se faire au présent, même si c'est vrai qu'il y a énormément de verbes au futur, il se fait quand même au présent, et puis il se fait pour essayer quand même de calmer la personne qui est en train de mourir, c'est quand même quelqu'un qui... Alors, lui dire, bon, écoute, tu n'es pas mort pour rien. Et il y a quelque chose de très beau, il me semble pas du tout ironique, même si, tu as fait une très belle analyse de ça, mais je crois que c'est peut-être la confusion que Deleuze dénonçait. On mélange le devenir et l'histoire. Quand on est pris dans un devenir révolutionnaire et quand on est dans l'histoire, et l'histoire ça a échoué, les révolutions ça foire toujours, bon, bah très bien. Mais là on est dans le devenir, ce que les gens vivent à l'intérieur de ça, et c'est ça que ces révolutionnaires ne veulent jamais oublier, c'est qu'ils ont été pris à un moment donné dans du devenir. Et c'est pas du tout la même chose qu'écrire l'histoire après.
Je peux juste oui, non, mais j'ai tout à fait conscience qu'un navire de nulle part fait partie d'un cycle des années 80 qui précède la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Empire soviétique, mais c'est vrai que bon, moi je lis toutes ses œuvres, je trouve que même biographie de Yorian Murgrave, c'est quand même un acte de prise en compte de la fin du rêve révolutionnaire. C'est la biographie d'un rêve révolutionnaire qui est déjà échoué et qui... Mais je suis d'accord, oui, il reste encore un ferment d'espoir, mais pour autant je trouve qu'il y a déjà contenu dans ses œuvres tout ce que l'on trouve par la suite. Donc je ne fais pas de distinction aussi coupée. Quant à la critique du stalinisme, oui, j'en ai parlé, hein, la critique du totalitarisme, c'était via ce que j'ai dit sur le totalitarisme. Quant au mythe de la classe élue, etc., forme de religion séculière, il me semble qu'il y a eu là quand même un progrès critique du monde occidental à l'égard, d'idéologies politiques qui ont structuré pour toute la modernité, dont il faut prendre acte. Hein. Le prolétariat nouveau Christ, etc. Enfin, on en a quand même vu les aberrations. Il me semble que l'œuvre elle-même parle pour souligner, oui, peut-être la beauté de tels fantasmes, mais aussi leurs limites. Enfin bon.
Alors,
parce que la question a été posée là.
Ah, d'accord. Alors, Jean-Pierre Videl, oui.
Mais je voudrais continuer à assumer mon rôle de fantôme de Cerisy, dans lequel Edith m'a installé le premier soir en disant que j'ai été remué par la vigueur des débats. Ça me rappelait tout à fait ces années-là. Le côté autocritique, dénonciation un peu moins virulent quand même, c'est bien. Ça s'est civilisé. Mais bon, ça veut dire que les questions qui sont soulevées sont extrêmement importantes. Et en ce qui a trait à l'idéologie, je ne voudrais pas prolonger indûment le débat, mais je voudrais quand même vous rappeler une chose qui est extrêmement importante dans ces années-là, surtout à Cerisy, surtout au niveau de ce qu'on appelait la théorie matérialiste du texte, liée curieusement au nouveau roman aussi. C'était une définition de l'idéologie donnée par un penseur marxiste, qu'on oublie un petit peu actuellement, c'est-à-dire Althusser, qui disait « L'idéologie, c'est du vent qui souffle sur du vent. » C'est-à-dire quelque chose qui est assez proche, finalement, de l'inconscient freudien, quelque chose d'insaisissable, mais agissant partout. Et donc, ce que vous avez soulevé tout à l'heure, à mon avis, m'a fait penser à ça. C'est une question qui se pose aussi, effectivement. Autrement dit, l'idéologie, c'est quelque chose qui informe le politique, mais qui ne se réduit pas, qui va plus loin que ça.
D'accord, je prends note.
Mais c'est le fantôme. Alors,
il me semblait avoir vu une main levée de Simon, non ?
Ouais, Philippe. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre avant.
Non.
Il y a une question très brièvement de la théorie c'est qu'on fait, ou plutôt de son absence. Je me demandais si. Et bien au-delà de la question de l'industrie culturelle, si on ne retrouve pas un peu la théorie critique avec l'œuvre d'Antoine Volodine, par exemple dans cette idée que l'art ou l'irrationnel devient un discours second sur la forme actuelle de la raison, raison avec un grand R, il me semble que c'est quand même tout de même assez présent dans Lisbonne Dernière Marge, en post-exotisme en 10 leçons, leçon 11, puis aussi de cette idée d'utopie négative, en fait, où l'art, le nouveau, l'art radicalement moderne, apparaît comme sous le chiffre en fait de la catastrophe. Et c'est précisément en résidant ou en habitant en fait la négativité qu'il est possible en fait de penser une utopie non affirmative finalement. Donc vous demandez si de cette façon on ne retrouvait pas finalement la théorie critique à l'intérieur de l'œuvre d'Adorno.
C'est intéressant ce que tu dis. Et, enfin, moi, je rebondirais sur le premier volet là, de ce que tu as dit, cette idée de l'art comme essayer d'explorer d'autres voies que celle de la raison. Enfin, pour moi, oui, ça me semble absolument fondamental dans l'œuvre de Volodine. Cette exploration, oui, ce désir d'une communication qui n'emprunterait pas finalement les voies du langage articulé face aux excès de la rationalité idéologique, ce que j'appelle. Donc, bon, moi, je fais un peu un parallèle. Après les excès de la Révolution française hein, et de la rationalité telle qu'elle avait pu s'échouer dans la terreur, on a eu une promotion de la sensibilité comme nouvelle voie d'accès à la vérité par les romantiques. Il me semble que dans l'œuvre de Volodine, c'est pas la même chose, mais on a aussi cette promotion, oui, de l'inconscient, de l'irrationnel, d'une communication sensible, émotive, hein, qui vient prendre le contre-pied des ravages d'une certaine forme de rationalité. Ça m'intéresse, oui, beaucoup.
Il y a une rationalité chez les romantiques allemands, hein, quand même.
Philippe Roussin, oui.
Oui, le mot de Darwin, c'est quand même. C'est à propos de Grimm. Bon, vous avez cité Angenot, vous avez cité Ruffin aussi, donc surtout tous les mécanismes d'analyse de discours, d'analyse de l'idéologie. Et après, il y avait. Trois formules gnomiques, là, j'ai pas eu le temps de les citer, de les mémoriser. Et ensuite, vous citiez ça en revanche, le ciel a été le siècle a été un hoquet de sang. Donc le problème, pour moi, c'est toujours qui dit ces formules gnomiques. C'est-à-dire, quelle est l'instance énonciative. Et donc, par exemple, dans le ciel a été un hoquet de sang. Je veux dire, quand Angenot travaille sur des textes, il travaille sur des textes sans auteur, où il transforme des textes sans auteur, c'est-à-dire bon. Et là, on est même dans la littérature et dans la fiction. Donc, par exemple, le siècle a été un hoquet de sang. Quel est le statut d'une assertion de d'abord, est-ce que c'est une assertion? Qui dit ça? Et est-ce que quand on parle en termes d'idéologie, on ne manque pas la question de l'énigmaticité, la question de l'ambiguïté de l'énonciation et de la formule?
Il me semble que justement, j'insiste précisément sur ces tensions, ces ambiguïtés des discours des personnages, qui sont des discours de fiction dont j'ai essayé de montrer comment à la fois par le biais de l'ironie et en même temps par la poétisation, la métaphorisation, il témoigne oui, d'une ambiguïté à l'égard de l'histoire passée et puis des discours idéologiques qui tentaient de lui donner forme. Donc il me semble que oui, j'ai bien affaire à du littéraire là en l'occurrence. Alors que c'est vrai que Marc Angenot, lui, finalement fuit l'étude du littéraire. Voilà, mais bon, pour l'instance énonciative... Oui, évidemment, il y a tout ce jeu avec l'énonciation chez Volodine, mais il me semble pas pour autant que ça rende tellement à ce point-là problématique la source énonciative, parce que précisément, tous les personnages et les narrateurs sont communis dans une sorte de... Enfin, j'ai tenté de le montrer, communis dans une même croyance idéologique, partagent les mêmes valeurs de fraternité, d'internationalisme, etc. Donc même si on n'identifie pas nécessairement précisément le narrateur, il me semble que toute l'œuvre organise précisément une communauté qui en cela partage la même sensibilité, et le même point de vue.
Bon, alors, deux questions, puis on arrête.
Les 25, on arrête quand même la nuit.
Oui, donc une petite question Thierry, une petite question et Anne. Pierre Ouellet.
Oui, je voulais simplement préciser que finalement le discours idéologique vise quelque chose qu'il voudrait voir réalisé. Donc c'est un discours pour quelque chose, hein, qui est vraiment en faveur de quelque chose. Or, il me semble que dans le lien, si vous le montrez un petit peu hier, on a plutôt un discours contre, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on vise exactement, certainement pas que le bonheur ou quoi que ce soit, dans les images que vous avez citées, quelque chose d'effectivement un peu dérisoire et ridicule. Donc c'est plutôt quelque chose qui se développe de manière négative, encore une fois, c'est une idéologie en creux, hein, qui ne met pas en faveur d'une réalisation quelconque, mais plutôt contre ce qui opprime, ce qui contraint, ce qui... Alors, est-ce que c'est encore une idéologie? J'en sais trop bien, mais il y a vraiment une parole anti. Et là, je mettrais idéologie au pluriel. Contre beaucoup d'idées, plusieurs idéologies. Et cette espèce de fascination pour la négativité, de tout ce qui est justement vidé, hein, de son sens. Et je dirais que moi, qu'on a affaire ici à des survivants de cette idéologie, à des Mark Levin, hein, quelque chose comme une... Et c'est en soi peut-être que l'idée de religion sécularisée, là, dont parle Boucher, peut être aussi intéressante pour parler de cet univers post-exotiste, parce qu'on a des survivances au sens où ce sont des formes fantomatiques d'idéologie, ça n'a plus de sens, ça n'a plus de fin, de finalité plutôt, hein, d'utilité, mais c'est des restes, comme ça, purement formels. Formel, c'est pas négatif pour moi, là, c'est plutôt des... Hein, des comment il dit ça aussi, des Duberman dans son livre sur la... sur les survivances, il y a un terme, oui, des spectres, en fait, quelque chose comme ça, des lucioles, voilà, donc, des espèces de restes, hein, et c'est pourquoi c'est un univers aussi très fantomatique, hein, voilà, on est plus tout à fait dans le milieu.
Bon, bah oui, non, mais c'est vrai, hein, mais bon, je trouve qu'il y a quand même une coexistence du discours contre, en effet, mais... Il y a quand même une survivance précisément de ces discours idéologiques du passé et une survivance précisément de l'utopie dont ils étaient porteurs, de ce rêve de cité idéale dont ils étaient porteurs. Donc sur le mode d'un deuil en train de se faire, d'une mélancolie mêlée de critiques, et puis tout cela débouche sur quoi? Oui, pas pour autant sur une communion avec le contemporain, mais en effet une sécession, un geste de rupture, un enfermement dans cette mémoire qu'on ne veut pas voir disparaître. C'est comme ça que je vois les choses.
Bon, Thierry.
Désolée.
Oui, alors, il y a la dimension politique, j'ai l'impression qu'elle est toujours doublée aussi, chez les personnages, elle est toujours doublée de métaphysique, parce que c'est la mort qu'ils refusent aussi. Hein. C'est, et ça vient doubler un discours marxiste de base qui, dans le marxisme, il n'y a pas forcément cette volonté-là qui est présente. Donc là aussi, il y a deux dimensions qui existent, qui me paraissent importantes. Ensuite, je ne sais pas si tu avais pris les textes de Bassman aussi, dans le corpus, ou pour travailler. Parce que avec les moines soldats, par exemple, c'est la révolution qui explose de l'intérieur dans un univers prolétarien de secours, et il y a les minoritaires, hein, les factions, il y a les minoritaires et les majoritaires. Et à cet endroit-là, il y a une sympathie pour des gens qui sont détruits par la révolution, mais qui eux-mêmes, enfin par la révolution, par une partie du parti, enfin par la partie dominante, mais qui sont simplement là les victimes du système. Et là, ils s'appellent les Kovarskistes dans le... Il y a eu une critique du communisme aussi, ou en tout cas du communisme réel, qui est passé aussi par les trotskistes et ce genre de choses, et j'ai l'impression qu'on a un écho de ça. D'autre part, on retrouve aussi la formule anarchiste, il y a un certain nombre de formules, ce qui fait que c'est pas évident d'identifier tout ça. Et puis, dernière petite chose, ce serait plutôt sur le côté... humanisme, oui, c'est une question qu'on pourrait aborder un jour. Le post-exotisme est-il un humanisme? Voilà. Je crois que là, on a une question assez compliquée. Surtout si ça doit être les petites bêtes et les plantes.
Bon. Une réponse
ou... Là, sur ce dernier point, oui, c'est contre l'humanisme né des progrès scientifiques et techniques, qu'on a abouti à cette idée de l'homme maître et possesseur de la nature. Puis,
C'est Descartes, hein, déjà, avant la Révolution.
Oui, ça vient de Descartes, tout à fait. Et contre cet humanisme-là qui finalement néglige toute chose créée au profit de l'homme et aboutit sur sa domination destructrice, finalement, je trouve qu'il y a dans pas mal de textes contemporains peut-être, un humanisme qui doit s'étendre à la fragilité de toute chose, qui n'est pas uniquement projeté vers son semblable humain. Et c'est manifeste dans l'œuvre de Volodine, puisque l'animalité et l'humanité se mélange.
C'est la critique de la rationalité instrumentale, avec laquelle je suis complètement d'accord. C'est, d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, il y a une rationalité chez les romantiques qui s'oppose à une rationalité instrumentale déjà. Ça rejoignait cette réflexion-là, je pense.
Très bien, nous poursuivrons les discussions plus tard. Merci à toutes les questions et des réponses.